RCF.
Bonjour chers auditeurs de RCF Vendée et bonjour Père Antoine Noisy.
Bonjour Nathalie.
Nous nous retrouvons et nous nous retrouvons après un jour que j'ai trouvé très important, c'est le pèlerinage des vocations, pèlerinage interdiocésain qui a eu lieu ce dimanche 1er mai à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui a réuni environ 1200 personnes, de nombreux consacrés, de nombreux prêtres, et c'était vraiment une très belle journée. Donc je trouve que c'est une introduction formidable à notre émission hebdomadaire L'Église en question, puisque depuis quelques séances, vous nous parlez du sacrement de l'ordre, et depuis la dernière séance, vous nous parlez de l'ordre presbytéral, c'est-à-dire celui des prêtres. Vous nous avez montré que le IVe siècle a été pour le presbytérat un siècle fructueux avec vraiment l'apparition de ce qu'on a appelé les ordres majeurs et également les ordres mineurs. Alors, dites-nous aujourd'hui, à travers la suite de l'histoire, quels sont les faits marquants qui concernent cet ordre du presbytérat, peut-être son évolution aussi.
Oui. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails de l'histoire du presbytérat pendant les 15 siècles suivants qui nous séparent du 4e siècle. Nous allons revenir à l'histoire et il nous faut nous arrêter surtout à la période médiévale. C'est le moment phare qu'il est intéressant de voir. C'est une époque qui ne sera pas très glorieuse, mais les faits marquants de cette période vont justifier les décisions qui vont être prises à l'époque de la réforme de Luther et de la contre-réforme. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter à cette période, à l'époque médiévale, pour mieux connaître ce qui s'est passé à travers cette période.
Vous dites l'époque médiévale. Moi, de ma petite connaissance historique, le Moyen-Âge, c'est quand même très très long. Ça démarre au 7e siècle et ça s'arrête au 15e. Alors, de quelle époque pas très glorieuse allez-vous nous parler?
Nous allons parler des 12e et 13e, 14e siècle, si on est...
Le Moyen-Âge classique.
C'est ça, tout à fait. Hein?
Bon, moi j'aime beaucoup le 12e et le 13e, alors je vous écoute.
Alors, cette époque va être marquée surtout par la dissociation grandissante entre le presbytérat et la charge pastorale, et sous l'impulsion des ordres mendiants, il y aura des ordinations absolues, c'est-à-dire sans charge d'âme, qui seront de plus en plus fréquentes. Cette période est aussi caractéristique par le système bénéficial, ce qui va se mettre en place, c'est un titre économique qui se substitue au titre ecclésiologique. On voit des prêtres qui ne reçoivent donc juste la formation pour l'observance du rite et la confession des sacrements. Certains sont voués à la célébration des messes de fondation. Les prêtres bénéficiaires de grands avantages vont donc fuir les devoirs pastoraux. Mais en même temps qu'il y a cette déviance, au sein de la même Église, on observe une évolution doctrinale dans laquelle la notion de caractère sacramentel va jouer un rôle très important. Cette évolution, certes intéressante, va pourtant avoir un développement dualiste gênant et même désastreux. La construction du corps eucharistique devient la fonction principale du prêtre et le soin du corps mystique du Christ devient secondaire. C'est comme si aujourd'hui, il y a des prêtres qui ne font que célébrer la messe en privé, parce que la messe était privative à l'époque, et des prêtres, comme on les appelle en Afrique, c'est comme ça qu'on les appelait, les gens de l'évangélisation de la sueur, c'est-à-dire des prêtres qui sont uniquement sur le terrain. Donc, on voit cette dissociation, ce regroupement dualiste à travers ce siècle, certains qui sont seulement sur la célébration et d'autres qui sont avec les gens. Voilà, on a constaté ça à cette époque et ce n'est pas vraiment quelque chose de très glorieux.
D'accord. Alors, moi, ça me contrarie un peu parce que j'aime beaucoup le Moyen-Âge et que je trouve que c'est une très belle période. Mais je comprends votre explication. C'est très intéressant. Et ce qui est amusant, c'est, enfin, amusant, je sais pas si c'est amusant. Mais en tout cas, Ce qui est important de souligner, c'est que finalement, cette dualité dont vous parlez, j'ai l'impression qu'on la retrouve quand même un petit peu à toutes les époques. C'est peut-être ce que le Christ a voulu un peu nous signifier entre le danger d'être Marthe
oui.
ou Marie, d'être uniquement dans l'action ou uniquement dans l'adoration.
La contemplation, oui.
Peut-être qu'aujourd'hui, dans nos paroisses, on se reconnaît les uns ou les autres, plus dans des associations caritatives ou plus au contraire dans l'adoration perpétuelle.
Oui.
Mais c'est un petit peu caricatural parce que l'un se nourrit de l'autre quand même, non ?
Oui, je dois dire que ça fait 24 ans que je suis prêtre. Et le danger que court chaque prêtre, c'est, je crois, le danger de la privatisation du sacerdoce, c'est-à-dire de faire de la grâce reçue une grâce non seulement personnelle, mais privative, qui le pousse à concevoir une théologie du sacerdoce à partir de son propre fond et non à partir de ce que l'Église dit. Ce danger, je crois, vous avez raison, est un danger récurrent et les prêtres d'aujourd'hui doivent faire attention. C'est justement ce danger que nous avons connu dans cette période où il y avait une dissociation entre ceux qui sont là pour célébrer les sacrements et ceux qui sont sur le terrain.
Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous pourriez nous mentionner ? Parce que il y a quand même eu beaucoup de saints à cette époque.
Donc, ah oui.
Quand même, la grâce devait passer quand même.
Oui, 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 oui. Alors, les historiens, certainement, ne parlent pas toujours de ces personnages-là qui ont marqué. Mais l'autre séquence marquante de cette période, c'est surtout l'invalidation du mariage des prêtres par le canon 7 de la 32 en 1139.
Ah, ça remonte à cette époque, alors.
Oui.
D'accord.
Mais sur la question du célibat des prêtres, étant donné l'importance de la question, nous y consacrerons toute une émission. Donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs. Nous allons consacrer une émission tout entière sur le célibat des prêtres. Donc, je ne fais que mentionner ce fait majeur pour l'étudier à un autre moment dans une autre émission. Donc, nos auditeurs peuvent deviner que sur le sacerdoce ministériel des prêtres, nous avons beaucoup de choses à voir encore et nous les verrons à la fin de cette séquence, après avoir étudié à la fois le presbytérat, mais en même temps l'épiscopat.
Vous êtes sur RCF Vendée, c'est l'église en question, avec le père Antoine Nouavy, qui a décidé de partir en guerre contre l'église du Moyen-Âge, ce qui me contrarie fort. Mais en tout cas, il a souligné ce qui est historique et donc que l'on ne peut pas remettre en doute. Une faille qui s'est installée dans l'église et dans le corps des prêtres au moment du Moyen-Âge classique, le 12e, le 13e siècle. C'est une séparation entre les prêtres de terrain qui finalement étaient se charger, si on peut dire, de la pastorale, pour employer un mot un peu moderne. Et puis un certain nombre de prêtres qui d'ailleurs pouvaient vivre, sinon dans le luxe, en tout cas un peu confortablement, en ayant des revenus.
Des revenus, ouais. Hein,
voilà.
Ouais.
Et qui, finalement, étaient, ce qui n'est quand même déjà pas si mal, des pourvoyeurs en sacrement, peut-être de manière là aussi payée, en tout cas assez privée, et vous expliquiez bien que c'était évidemment un danger, quelque chose qui n'était pas très équilibré pour l'Église, et nous avions terminé en disant que c'était peut-être une tentation ou un risque que pouvait toujours courir l'Église, quelle que soit son époque. Et vous aviez terminé par, en nous mettant, si je puis dire, l'eau à la bouche, en nous disant que vous alliez nous parler, mais non, du célibat des prêtres.
Oui.
Donc ça, ce sera pour plus tard.
Pour plus tard, tout à fait.
Donc, on vous lâchera pas, on veut notre émission là-dessus. Mais revenons à cette histoire intéressante et chaotique, finalement,
oui.
du presbytérat. Donc après cette période, on va dire trouble,
oui.
de l'Église.
Oui.
y a effectivement des réformes importantes que l'Église elle-même a faites. Il n'y a pas que les gens qui se sont révoltés contre l'Église.
Oui.
L'Église elle-même a a eu besoin de faire des réformes pour mieux orienter les prêtres sur leur mission.
En même temps qu'il y a des déviances, des périodes troubles, il y a en même temps cette recherche de l'Église de vraiment vivre de l'Évangile. Et donc, la période suivante connaîtra d'ailleurs la réforme de Luther et la contre-réforme du Concile de Trente. Et les décrets du Concile de Trente, à partir du pape Paul III en 1542, vont susciter une réforme morale et spirituelle des prêtres. On va assister là à la naissance des séminaires. On n'a pas parlé depuis que nous avons commencé l'émission de la formation des prêtres. À l'époque, les prêtres étaient formés auprès de leurs évêques. Ils étaient autour de l'évêché, donc la formation se faisait autour des évêchés, à partir des évêchés. Et donc, on va assister à partir de cette période, à la naissance des séminaires, on va obliger les curés à faire des homélies et à faire le catéchisme. Donc, on les ramène un peu plus près de leur cœur de métier. Par rapport aux réformateurs protestants, le concile va déclarer anathème ceux qui disent que il n'y a pas dans l'alliance nouvelle de sacerdoce visible et extérieur un pouvoir de consacrer le vrai corps du Christ et le vrai sang du Christ. Et on va déclarer anathème ceux qui disent que l'ordination n'est pas un sacrement vraiment et proprement institué par le Christ Seigneur. Donc, la réforme de Luther va permettre à l'Église de mieux préciser la doctrine et surtout le rôle des prêtres par rapport à la célébration de l'Eucharistie. Donc, au total, on peut dire que le Concile de Trente va consacrer la théologie traditionnelle du sacerdoce ministériel. Le catéchisme de 1566, par exemple, dit du Concile de Trente, dit par exemple des prêtres qui sont appelés à juste titre non seulement des anges, mais même des dieux, puisqu'ils représentent auprès de nous la puissance et la majesté du Dieu immortel. Alors, quand je dis ça, je suppose que vous allez me poser des questions là-dessus.
En tout cas, ça fait réagir.
Et bien sûr. Pourquoi ça vous fait réagir?
Mais parce qu'on passe d'un extrême à l'autre et que les voici déifiés, angélifiés et déifiés, alors que vous venez de nous dire que c'était pas terrible. Mais en fait, ce que je constate, c'est que la révolte, j'ai envie de dire, de Luther, qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte au fond, a été vitale pour que l'Église elle-même reprennent en main cette vision qu'elle avait du sacerdoce.
Oui, les crises au sein de l'Église ont toujours été bénéfiques. Et cette crise-là, en particulier, a été bénéfique parce qu'elle a permis à l'Église de mieux repréciser les choses. Et cette crise a été tellement terrible qu'il y a une grande prise de conscience au niveau des prêtres et surtout à propos de la querelle sur l'indulgence. Donc, on va prendre conscience de toutes les déviances. Et donc, quand le catéchisme dit, par exemple, que les prêtres sont des anges et qu'ils sont même comparés à des dieux, parce qu'ils représentent auprès de nous la puissance et la majesté du Dieu immortel. Évidemment, ils ne sont pas des anges, ils sont des hommes comme nous, mais en même temps, on leur dit leur mission, c'est de nous faire penser à des anges.
C'est ça, c'est
leur mission, c'est de nous faire penser à Dieu et de nous amener à Dieu. Donc ce catéchisme, même si on peut dire que ce qu'il dit est dit à outrance, on peut penser qu'il nous montre le chemin et dit ce que la vie d'un prêtre doit être.
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout aux prêtres que ça s'adressait pour leur faire prendre conscience à la fois de la dignité qui les dépasse un peu, de leur rôle, et du coup peut-être de l'indignité dans laquelle certains se maintenaient, voilà, de la gravité d'une certaine manière de leur faute. Quoi.
Tout à fait.
Bon, vous êtes allé un petit peu vite quand même sur cette période parce que
Oui.
Non, mais je comprends. On est obligé de tracer à grands traits. En tout cas, un grand merci, Père Antoine, de nous avoir un petit peu fait remonter dans le temps par rapport à l'histoire du sacerdoce, l'histoire du presbytérat. Je pense que, comme moi, chers auditeurs, vous avez retenu certaines choses, vous avez envie d'en creuser d'autres. Et si cela vous a un petit peu secoué ou dérangé, ma foi, ça veut dire que ce programme est toujours passionnant et que Il nous fait bouger et réfléchir. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de notre radio et je vous dis à la semaine prochaine.